à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous continuons de nous intéresser à l'Égypte pharaonique en approfondissant nos connaissances générales sur l'Ancien Empire et oui, en incluant la construction des pyramides du plateau de Gizeh. Afin de rester dans les années 3000-2000 avant notre ère, qui est notre tranche chronologique du moment, nous passerons ensuite à l'île de Crète. C'est parti! Dans le cours précédent, nous avons vu les balbutiements de l'État pharaonique avec un pharaon qui est un monarque de droit divin, soit un dieu venu sur terre pour maintenir la stabilité du royaume et qui retournera parmi les dieux après sa mort physique afin de continuer à protéger le peuple égyptien. Et c'est quand même un élément très important pour cette époque-là. Et pour gérer son territoire, le pharaon de l'Ancien Empire est appuyé entre autres d'un vizir qui lui supervise l'administration des différentes régions du pays. Et c'est donc à l'époque de l'Ancien Empire qu'on divise le territoire en zones administratives de tailles différentes qui vont englober des villes, des villages et de grands espaces agricoles. Ces zones administratives sont appelées des nomes et elles sont donc gérées par des nomarques. Les nomarques qui deviennent des agents de liaison entre les paysans et le pouvoir central. Ils sont lettrés, mais reçoivent néanmoins la visite de scribes qui viennent compter, enregistrer à l'écrit les impôts qui sont dus à l'État pour chaque nome. Et les surplus agricoles de ces nomes étaient destinés entre autres à la cour et aux temples qui sont liés au sanctuaire des pharaons décédés. Avant de nous intéresser à la vie sociale et culturelle, faisons maintenant un petit tour d'horizon des règnes des pharaons les plus importants de l'Ancien Empire. Le roi le plus connu, celui de la troisième dynastie, est indéniablement celui qu'on appelle Djéser ou Djoser, qui a régné entre 2624 et 2605 avant notre ère. Et il est reconnu dans l'histoire pour la construction du premier tombeau en pierre, qui est la fameuse pyramide à degrés. Et c'est un roi qui a été très apprécié de ce qu'on en sait, parce que comme je vous le disais dans le cours précédent, nos sources sont quand même très limitées pour cette époque-là. Et il a longtemps été vénéré. Et on connaît mal, par contre, sa succession. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on arrive à la quatrième dynastie, le pharaon peut-être le plus marquant, le plus important, s'appelle Snéfrou. Et lui, on sait là, qu'il va régner environ, mais c'est pas mal fixé maintenant, 2613-2589 avant notre ère. Et dans le peu d'archives qu'on peut avoir, mais là, on a quand même plus d'inscriptions, donc ça nous aide un peu à le connaître. Il devient un peu le symbole du bon monarque. Il est connu, en fait, dans les documents comme un roi guerrier qui aurait mené une expédition en Nubie pour mater une révolte. Il en aurait ramené plus de 6000 prisonniers, mais aussi beaucoup de bétail. Et ce qu'on sent, en fait, avec le règne de Snéfrou, c'est l'importance de garder cette suprématie pour la Nubie, parce que c'est surtout un territoire très important pour les mines d'or. Et c'est une région qui est au cœur d'un transit caravanier de produits africains aussi, comme l'ébène, l'ivoire. Alors, c'est terriblement important pour l'Égypte à cette époque-là d'avoir, je dirais, la mainmise, en fait, sur une partie de ce territoire. Et Snéfrou est reconnu aussi, de ce qu'on en sait dans les archives, comme un grand constructeur de navires. Des navires qui vont permettre de transporter le bois qui fait beaucoup défaut à l'Égypte. Alors, on va aller le chercher, pour l'ébène du côté de l'Afrique, mais on va s'en aller aussi du côté du couloir syro-palestinien pour aller chercher d'autres essences, en fait, de bois pour la construction. On connaît aussi, évidemment, Khéops, donc 2589-2566 avant notre ère, qui est le fils de Snéfrou. Et c'est un peu malheureux parce qu'on a peu d'informations sur ce roi, sinon qu'il a eu l'image d'être cruel, peu à l'écoute des besoins de son peuple. D'ailleurs, la seule représentation que nous avons de lui est une toute petite statuette qui... jusqu'à tout récemment, du moins, se trouvait au musée du Caire, qui sera probablement, je pense, déplacé au nouveau grand musée égyptien de Gizeh, si ce n'est déjà fait. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'énergie sous son règne a vraiment été mise sur la construction de ce tombeau gigantesque qui est la Grande Pyramide, qui aurait pris, là, on estime, à peu près 20 ans à construire. Et ses successeurs, que sont Khéphren et Mykérinos, vont aussi tenter de l'imiter, mais sans jamais l'égaler. Pour la question de la construction, on va en reparler un petit peu plus tard, pendant notre épisode. Mais néanmoins, ces trois rois vont être le symbole, on pourrait dire, de la puissance, de la richesse et même de l'autorité royale en Égypte. Et ces édifices que sont les pyramides vont témoigner du lien important entre ces rois et le monde des dieux. Ils vont vraiment mettre l'emphase sur l'importance de la vie après la mort pour les pharaons, qui, je vous le rappelle, sont considérés comme étant des dieux sur Terre qui vont retourner dans le monde des dieux après leur mort. Alors, la pyramide ici devient vraiment cette espèce d'ascenseur qui va les mener dans le ciel pour régner à tout jamais sur l'Égypte. Alors, elles deviennent, en fait, ces pyramides, des machines à ressusciter, en fait, les rois. Et... Pour le peuple en général, en fait, on peut dire que le roi de cette époque-là, donc sous ses rois les plus connus, là, que sont Khéops, Khéphren, Mykérinos, le roi est comme une garantie, en fait, que le monde va rester en ordre, qu'il ne sombrera pas dans le chaos, dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'on va commencer à voir vraiment la naissance de cultes solaires, de cultes de lumière aussi, à partir de cette époque-là. On va voir l'ajout, en fait, du nom du dieu soleil Ré ou Ra, plus en anglais, dans la titulature impériale. Et ça va devenir donc quelque chose de plus clair, en fait, pour la population, ce lien direct entre le monde divin et le pharaon qui règne sur le peuple égyptien. Et on va garder donc des cultes aussi après la mort des souverains pour qu'ils continuent, en fait, de jouer leur rôle de protecteur en Égypte. Et c'est pourquoi les pyramides vont être aussi accompagnées de sanctuaires, en fait, très, très importants pour l'Ancien Empire et même plus tard, en fait, dans le temps. On a aussi l'exemple de la pyramide du pharaon Ounas, là, qui est le dernier roi de la 5e dynastie, qui nous a donné quand même quelque chose de très important. Lui, on le connaît peut-être pas très bien, mais sa pyramide est recouverte en fait de textes qui parlent en fait là, de ce fameux voyage dans le monde souterrain que va devoir faire le pharaon après sa mort et les dangers qu'il doit affronter avant de pouvoir en fait retourner dans le ciel pour protéger le peuple égyptien. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameux textes des pyramides qui vont évoluer éventuellement vers quelque chose que vous connaissez souvent plus, qu'on appelle le livre des morts. Mais quand on parle des pyramides, surtout pour les trois pharaons qu'on vient de mentionner, c'est sûr que la pression économique a été très grande sur les paysans. On va commencer à avoir des problèmes émerger. On commence à avoir aussi des problèmes de succession au début de chaque dynastie qui vont suivre. On est capable, en fait, d'observer aussi avec, comme je vous dis, une documentation somme toute limitée, des problèmes de gestion et des problèmes d'autorité de pharaon. Et ça, on le voit plus à partir du règne de Pépi II. Donc, on est rendu à la 6e dynastie et lui va régner entre 2278 et 2184 avant notre ère. Donc, on parle d'un règne d'environ 94 ans si les dates sont justes, ce qui est quand même assez étonnant pour l'époque. Et on sent que c'est dans la deuxième moitié de son règne que ça semble avoir été plus difficile. Au fil du temps, les égyptologues ont essayé, les historiens, là, d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui était en train de se passer et on semble voir une bureaucratie qui est peut-être trop imposante rendue à cette époque-là. Les nomarques gèrent leur nombre parfois de manière presque indépendante de l'État. Alors, il y a moins de contrôle, en fait, sur ce qui se passe dans différentes régions administratives de l'Égypte. Il y a moins de communication aussi avec les nomarques qui deviennent un peu comme des micro-rois, on pourrait dire, de leur région. On voit aussi une augmentation assez importante du nombre de prêtres et de temples qui vont aussi offrir à la population une autorité religieuse importante parce que pour le peuple égyptien, ce qui est important, c'est de bien maintenir cette relation entre les humains et le divin pour s'assurer en fait que l'Égypte ne sombre pas dans le chaos, que la vie continue, que le soleil continue de se lever à tous les jours, qu'il apporte la chaleur, qu'il apporte la vie, que l'eau apporte et les crues du Nil surtout apportent tout ce qu'il faut pour une agriculture de qualité. Alors ce lien entre l'humain et le divin est terriblement important pour la population égyptienne et c'est ce qui va donner un certain poids à ces clergés qui vont être situés un petit peu partout en fait sur le territoire. Et c'est aussi une époque, quand on arrive au règne de Pépi II surtout, où le territoire de l'Égypte va commencer à s'agrandir dans le désert occidental. Alors là, on commence à parler des fameuses oasis égyptiennes qui vont commencer à être contrôlées en fait par le pouvoir pharaonique et qui vont devenir des frontières plus claires aussi d'où commence et d'où s'arrête en fait l'État égyptien à partir de ce moment-là. On a d'ailleurs des textes qui nous viennent des oasis là. On sait qu'on a envoyé des gouverneurs qui habitaient entre autres l'oasis de Dakhlé, donc c'est la plus grosse en importance, on est plus vers le sud, des gouverneurs qui ont été envoyés pour surveiller la zone afin de mieux s'assurer là, qu'il n'y ait pas de gens, de voyageurs en Libye qui traversent du côté du territoire égyptien. Parce que là, on est en train d'assurer en fait la sécurité d'un réseau caravanier vers la mer Méditerranée. Alors, c'est pour ça, en fait, que les oasis deviennent, en fait, importantes et sont contrôlées de plus en plus par le pouvoir égyptien. Et on voit aussi, en fait, qu'on commence à enseigner des techniques d'irrigation à l'égyptienne dans ces régions-là, avec peut-être une idée là, de les développer de manière un petit peu plus poussé du point de vue agricole. Mais le règne de Pépi II marque aussi une époque où les pharaons vont moins laisser de grands monuments à leur gloire. Du moins, c'est beaucoup moins marqué, en fait, qu'à l'époque de Djoser, de Khéops, de Khéphren. Et on sait qu'on commence à avoir, en fait, des problèmes économiques qui sont liés, entre autres, à une désertification en fait du désert du Sahara qui va commencer à provoquer des problèmes de sécheresse et des crues du Nil beaucoup moins abondantes, beaucoup moins élevées aussi en termes de hauteur que ce qu'on connaissait par le passé. Alors, il semble y avoir eu aussi des nomarques qui ont pris la décision d'envoyer moins, en fait, de surplus, moins d'impôts à l'État pour mieux protéger leur population, peut-être même éviter la famine. Et ça semble expliquer pourquoi il y a une baisse de l'opinion générale face au pharaon, qui ne parvient plus à maintenir l'ordre du monde, parce que là, tout d'un coup, la nature se retourne contre les Égyptiens. On a des sécheresses, on commence à avoir des problèmes agricoles et on commence à manquer de nourriture. Et ça, ben pourtant, c'est supposé être le rôle du pharaon. Alors, la baisse de la qualité de l'agriculture est un peu responsable d'une forme de décentralisation du pouvoir à la fin de l'Ancien Empire. Les nomarques, qui comprennent que s'ils protègent bien leur population, vont gagner en pouvoir, bien gagnent en indépendance de gestion et vont même, des fois, passer directement le pouvoir à leur fils sans demander, en fait, l'autorisation par le vizir et à travers lui, par le pharaon. Alors, on voit vraiment que plusieurs nombres sont en train de s'auto-gérer tout seuls et que la centralisation des pouvoirs est en train de se fracturer complètement lorsqu'on arrive à la fin de l'Ancien Empire. On a même en fait quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous avez des nomarques qui commencent à se construire eux-mêmes des tombeaux et ça montre quand même leur importance. D'un autre côté, bien, vous avez des prêtres qui vont jouer un peu ce rôle-là aussi. Comme je vous disais, leur autorité religieuse va faire en sorte qu'ils sont peut-être un petit peu plus rassurants en fait qu'un pouvoir qui est souvent loin, en fait, des paysans, et certains prêtres vont aussi aller jusqu'à se faire construire des tombeaux comme s'ils étaient, en fait, les gestionnaires d'une partie de leur région. Alors, c'est ce qu'on appelle une crise du système pharaonique, et comme je vous l'expliquais dans le cours précédent, bien, les crises du système pharaonique deviennent ce qu'on appelle les premières périodes intermédiaires dans la longue histoire de la civilisation égyptienne. Alors, cette première période intermédiaire, nous allons la voir un petit peu plus tard. Mais là, passons maintenant à l'aspect un peu plus social et culturel de l'Ancien Empire. Parce qu'il s'agit quand même d'une période fascinante en ce qui concerne l'architecture, les techniques agricoles, les relations même diplomatiques aussi. Il faut comprendre que l'Ancien Empire, c'est une période d'essais et d'erreurs dans les types de construction, l'adaptation au terrain, mais aussi dans la volonté de mieux suivre le cycle du soleil parce qu'on va beaucoup associer le règne pharaonique au soleil en particulier. Alors, on va observer la montée de l'importance du dieu Ré tout au long de cette période, donc son nom va même s'ajouter à la titulature des pharaons et le paroxysme en fait de cette association du pouvoir au dieu soleil, au dieu Ré plus particulièrement, va vraiment se voir à partir de la 5e dynastie. Donc le dieu Ré en fait c'est le dieu faucon dès l'époque pré-dynastique, il est déjà en fait à cette époque-là associé au pouvoir royal avant qu'on parle en fait du dieu Horus si vous le connaissez, mais on a quand même un peu de difficulté là, pour l'époque à comprendre en fait si les gens liaient directement Ré, Horus et Osiris pour, disons, la 5e dynastie. Mais ce qu'on sait, c'est que déjà les Égyptiens associent le soleil à la source de toute vie et c'est pour ça que le soleil est la source du pouvoir du pharaon. La capitale de l'Ancien Empire, qui est Memphis, était près d'Héliopolis, qui est la cité du soleil, qui se trouvait de l'autre côté du Nil. Et ça explique possiblement la montante importance de ce qu'on appelle les cultes dédiés au dieu soleil, les cultes solaires. D'ailleurs, c'est entre la 4e et la 5e dynastie qu'on voit apparaître le fameux cartouche. Ça, c'est cette espèce de boucle, en fait, qui entoure le nom des pharaons en hiéroglyphes. Ce sont les troupes de Napoléon, en fait, qui ont appelé ça comme ça parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait à un cartouche de balle. Mais dans les faits, c'est le soleil qui entoure le pharaon, qui confirme, en fait, son pouvoir divin sur le monde. Et ça, bien, on va le voir à partir du règne de Snéfrou, et ça va devenir ensuite un standard là, qui va durer jusqu'à la fin, en fait, de l'époque pharaonique. Et on va même avoir des fois des noms d'empereurs romains là, qui vont l'avoir aussi lorsque ça va être écrit en hiéroglyphe. Et donc, les pyramides, si vous me permettez, surtout celles du plateau de Gizeh, vont avoir aussi un peu la forme d'un rayon de soleil quand on regarde comment elles sont construites, sur lequel le pharaon va voyager pour retourner vers le dieu soleil. Alors, le nom de Ré va commencer, comme je vous disais, à apparaître dans la titulature royale entre les 4e et 5e dynasties. Et c'est là qu'on va commencer à mieux clarifier un peu son voyage. C'est le dieu créateur du monde. Sans lui, il n'y a pas de mort. Alors, c'est l'idée aussi que le soleil se lève à l'est le matin et meurt d'une certaine façon à l'ouest le soir et doit comme le pharaon, lorsqu'il va mourir, voyager dans le monde souterrain qu'on appelle la douate pendant les heures de la nuit. Un monde qui est peuplé de dangers. Parce que pour les Égyptiens, qu'est-ce qu'il y a en dessous du sable? Il peut sortir un scorpion, il peut sortir un serpent, et ça, c'est terriblement dangereux. Si on s'en va sur les rives du Nil, on peut même se faire attaquer par un crocodile. Alors, tout ce qui est en dessous est inquiétant, et les Égyptiens vont vraiment avoir peur que le dieu soleil ne réapparaisse pas au matin pour apporter la lumière, la chaleur et la vie. C'est un peu pourquoi on va commencer à voir le dieu Ré, d'ailleurs, représenté sur un bateau lorsqu'il voyage, en fait, dans le monde souterrain pendant les heures de la nuit, mais il va aussi l'utiliser pour voyager dans le ciel pendant les heures du jour. Alors, c'est vraiment l'époque à l'ancien empire, et surtout entre les 4e et 5e dynasties, on voit vraiment les premières conceptions de ce lien très important entre le soleil, le divin et le pouvoir royal aussi, comment en fait tout ça est interdépendant. Et ça va donner naissance à des complexes funéraires de plus en plus impressionnants pendant l'Ancien Empire, surtout lorsqu'on parle des grandes pyramides. Parce que avant d'avoir les grandes pyramides, les deux derniers rois de la deuxième dynastie, du moins, ont été enterrés à Abydos, qui est une ville qui est plus associée d'ailleurs au dieu Osiris. Mais la plupart des pharaons des 3e, 5e dynastie, eux, vont être enterrés près de la capitale, près de Memphis, ce qui est notamment la nécropole de Saqqara. Et au départ, on avait ce qu'on appelle des mastabas, donc juste une petite butte en fait de pierre qui recouvrait une petite chambre funéraire en dessous, mais le changement majeur s'opère avec Djaser. Djaser qui va vraiment faire construire le premier complexe funéraire entièrement en pierre. Et alors que les autres, en fait, quand on parle des mastabas, en fait, c'était construit en briques crues ou même des petits monticules de terre. Donc là, on a vraiment un complexe funéraire entièrement en pierre. Et on a des inscriptions quand même près de la pyramide. On a aussi des mentions d'un texte important, qui est le texte de Manéthon, qui vont attribuer, en fait, ces changements-là au fait qu'on s'en va vers une forme pyramidale et que pour que ça puisse tenir, la pierre, c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'importance du complexe funéraire qui va accompagner la pyramide, c'est que comme on doit aider le pharaon à tourner dans le monde des dieux, un peu comme pour le dieu soleil, on va devoir en fait faire des offrandes, des cérémonies pour s'assurer que le voyage dans la douate, dans le monde souterrain, se passe bien, que le pharaon puisse bel et bien ressusciter d'une certaine façon dans le monde des dieux, dans le ciel. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a un complexe funéraire qui va accompagner en fait les pyramides. Et ça commence donc avec Djoser, et surtout on doit tout ça à un homme assez étonnant. Il s'appelle Imhotep, donc là vous avez peut-être en tête le film La Momie, là, Imhotep, qui a tous les chapeaux, parce que, il était vizir, mais c'était aussi un architecte, un poète et même un médecin, de ce qu'on en sait. On le connaissait à l'époque comme étant le chef des sculpteurs. Alors, c'est très rare, d'ailleurs, d'avoir le nom, à l'époque, d'un particulier comme ça, à côté de celui du roi. Donc, on a des traces, en fait, d'Imhotep. On sait qu'il a été important. Et c'est lui, en fait, qui va faire des essais, des erreurs, et qui va essayer de voir comment on peut créer une forme d'escalier, en fait, pour amener Djoser vers le monde des dieux. Et c'est comme ça qu'il va avoir cette idée d'empiler des mastabas, des gros vers des plus petits, pour créer cette espèce d'escalier vers le ciel et donc vers le soleil aussi. Donc, on parle quand même d'une pyramide d'à peu près 60 mètres de haut, ce qui est quand même pas rien quand, juste avant, on avait encore des petits mastabas. Et Imhotep a quand même très, très bien pensé, en fait, sa construction. On est sur un plateau rocheux qui est Saqqara. Il y a une légère inclinaison des blocs vers l'intérieur pour éviter que la structure s'effondre. Et d'ailleurs, elle vient d'être entièrement là, nettoyée, restaurée. Elle est, en théorie, là, ouverte au public depuis plusieurs mois maintenant, la pyramide de Djoser, parce que pendant longtemps, on ne pouvait pas la visiter parce qu'elle était en chantier, un très gros chantier, d'ailleurs. Et le sarcophage du roi, va se trouver dans une chambre funéraire de granit sous la pyramide, et on a conçu plusieurs tunnels, à l'époque, pour l'atteindre. Il y avait des jarres, des pots avec des noms d'anciens pharaons, parce qu'on aurait récupéré même des jarres de pharaons avant Djoser. On peut se poser la question, mais on voit déjà cette idée d'approvisionner le pharaon en nourriture et en liquide, en fait, pour l'éternité. Donc, c'est déjà là, à cette époque-là. Et donc, près de la pyramide, on va aménager ce complexe funéraire là, pour avoir des cérémonies, pour être sûr que le pharaon puisse retourner dans le monde des dieux sans trop d'entraves pendant son voyage dans le monde souterrain en particulier. Alors, le temple funéraire, qui est comme un peu au cœur du complexe, sert en fait au culte du pharaon, où on va porter des offrandes et où on fait différentes cérémonies. États-Unis. Ensuite, ben, vous avez Snefru qui, lui, ben, va aller un peu plus loin. En fait, lui, il va s'y prendre à 3 fois pour avoir un tombeau digne de ce nom. Il va essayer 3 pyramides différentes. En fait, il y en a une première là, qui est à Meidum, qui la couche de finition n'a même pas résisté au temps, mais il a essayé lui aussi là, d'empiler des mastabas et de faire une pyramide à degrés. Plus ou moins satisfait. On ne sait pas exactement ce qui explique le changement, mais on va bouger puis on va s'en aller ailleurs pour essayer de faire une pyramide plus grosse, plus lourde aussi. Et là, c'est ce qu'on appelle la pyramide rhomboïdale. C'est qu'il y a eu des erreurs dans le calcul des angles. Elle était trop petite au sommet. Elle arrivait trop rapidement, en fait, au sommet. Et le terrain n'était pas un plateau rocheux comme Saqqara. Alors là, ben au gré de la construction, il y a un affaissement et c'est comme ça qu'elle s'arrondit. Alors, la bonne pyramide pour Snefru va être la 3e, qu'on appelle la pyramide rouge, qui est vraiment solide, qui est quand même droite et qui est en fait directement là, l'inspiration ensuite là, des grandes pyramides du plateau de Gizeh et qui a une base carrée. Donc, on parle de 220 mètres par 220 mètres et ça va faire en sorte là, qu'on va mieux pouvoir monter les blocs pour donner la fameuse forme pyramidale. Alors, on part de ça pour construire la pyramide de Khéops. Donc, ceux qui disent, mais comment on a construit les pyramides et tout ça, il y en a eu avant. Quand je vous dis que c'est une période d'essai et d'erreur, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et la pyramide de Khéops, ben, elle aussi, elle a une forme carrée à la base d'à peu près là, 230 mètres par 230 mètres et va atteindre 146 mètres de haut. Donc, on fait des estimations. Hein? On n'a pas été capable de calculer tous les blocs, mais ça donne à peu près 2 300 000 blocs. On va jouer avec des blocs dont la moyenne est d'à peu près 2,3 tonnes chacun. Mais les plus lourds, surtout à la base, peuvent aller jusqu'à 16 tonnes. Donc, c'est quand même assez spectaculaire, effectivement. Mais c'est un règne Khéops de 23 ans, puis on estime que c'était à peu près 20 ans pour la construction, ce qui veut dire qu'on déplaçait quand même une quantité très appréciable de blocs par jour et qu'on en plaçait aussi énormément par jour. Ça devait varier quand même un petit peu. Et pendant longtemps, on n'avait pas de documents qui nous donnaient un indice par rapport à ça, mais dans quelques instants, je vais vous parler de la découverte d'un papyrus qui est en train, qui est venu confirmer en fait plusieurs hypothèses par rapport au chantier en fait de construction de la pyramide de Khéops. Ce qu'on voit quand même assez facilement, c'est que les côtés sont orientés vers les points cardinaux. Donc, c'est quand même assez précis. On sait qu'il maîtrisait le nombre pi, mais c'est quand même pas assez pour arriver à ce niveau de précision, ce qui veut dire qu'on a, au fil du temps, vraiment bien travaillé avec des cordages, on s'est aligné avec les étoiles pour bien penser la structure, et on a des tunnels et des chambres à l'intérieur là, qui sont pensées de façon à ce que la structure ne s'effondre pas. Donc là, avec le projet Scan Pyramids, où on a utilisé la myographie pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur sans altérer l'intérieur de la Grande Pyramide, on a effectivement trouvé des couloirs. Et là, c'est sûr que les gens s'emballent très vite avec ça, mais la taille du gros couloir qui a été découvert nous laisse nous amène plus vers la confirmation là, que ça servait vraiment à ce que les gens puissent circuler pour venir bien refermer en fait l'intérieur de la pyramide. Parce qu'on a des angles quand même très précis. On a vraiment réussi après ça à l'extérieur à faire une finition avec un revêtement calcaire. Ce revêtement calcaire-là, et grâce à l'archéologie expérimentale, on sait que là, on frappait en fait le calcaire avec des outils en cuivre ou peut-être même en pierre pour le rendre le plus blanc possible. Ça a disparu là, au gré du Moyen-Âge et plus tard, le sous-métallis où on a enlevé, en fait, là, tous les revêtements. Il y a le sommet de la pyramide de Khéphren qui vous donne une idée de ce à quoi les pyramides ressemblaient avec leur revêtement complet. Et donc, Khéphren et Kérinos vont opter pour des structures similaires parce que la pyramide de Khéops, ben, elle est quand même un succès du point de vue architectural. Et elle est toujours aussi droite et elle tient toujours aujourd'hui. Alors, ces pyramides sont sur un plateau rocheux. Et c'est ce qui fait qu'elles peuvent être aussi lourdes, qu'elles peuvent être aussi grosses, parce qu'on a quand même les grès de Nubie en dessous, comme on les appelle, qui soutiennent très, très bien, en fait, les structures. Alors que si on avait fait ça en plein désert, comme Snefru, sans base rocheuse, ben c'est sûr que ces pyramides-là auraient fait la même chose, elles auraient fini par s'arrondir ou même s'effondrer. Donc, le choix du lieu, le fameux plateau de Gizeh, c'est vraiment pas innocent à l'époque. Et donc, les 3 pyramides sont accompagnées de complexes funéraires avec des temples. Donc, on est ici dans la même logique que Djoser. Et l'idée, c'est toujours d'entretenir le culte du pharaon après sa mort pour qu'il continue son travail de maintenir l'équilibre du monde. Et donc, les complexes sont alignés sur un axe qui est S-Ouest pour représenter le cycle du soleil et donc le voyage du pharaon. Et on sait aujourd'hui là, que les 3 pyramides, quand on les regarde, parce que Mykerinos est quand même un petit peu éloigné, on a quand même des repères astronomiques. Ce sont les étoiles, en fait, de la ceinture d'Orion qui ont servi de point de repère, en fait, pour la construction des 3 pyramides. Et vous avez aussi quand même aussi des petites pyramides pour les reines, les princesses et les nobles. On a trouvé d'ailleurs des momies pas encore très, très belles. À l'Ancien Empire, vraiment, ce sont les tout débuts, les balbutiements de la momification. On reparlera de ça dans un autre épisode plus en détail. Alors, elles sont généralement en très, très mauvais état. C'est plus des squelettes avec, des bandelettes. C'est essentiellement ce qu'on va trouver. Mais sur le site... Ce qu'on ne montre pas souvent, et parce que ça peut peut-être briser la désinformation à l'idée qu'on avait des esclaves qui ont construit les pyramides, c'est complètement faux. En fait, sur le site, vous avez les logements des travailleurs. Donc ça, c'est quand même fascinant de voir les habitations où les gens habitaient. Je vais vous reparler du papyrus dans quelques instants qui vient nous confirmer, en fait, cette existence de ces travailleurs qui étaient payés pour construire la pyramide de Khéops. Et donc, tout ça se ressemble. Il y a juste Khéfren qui a ajouté le sphinx, qui est comme le gardien, vraiment, de son complexe funéraire. Et on pourrait parler ici, vraiment, de la première grosse statue colossale de l'histoire égyptienne. Près des pyramides, on a aussi des barques solaires, comme pour le dieu Ré, qui vont permettre aux pharaons de voyager dans la droite, donc dans le monde souterrain, et ensuite de pouvoir atteindre le ciel et les dieux dans le ciel. La plus célèbre, c'est les deux barques solaires qui ont été trouvées près de la pyramide de Khéops. D'ailleurs, jusqu'à tout récemment, la barque était dans l'ancien musée, de la pyramide de Khéops. C'est sûr que des projets comme ça, ça demandait une énorme planification de l'espace du plateau. Hein? Alors, ça arrive pas du jour au lendemain. C'est quand je vous dis que c'est essai-erreur, ça prend en fait plusieurs générations pour arriver à des constructions qui non seulement résistent au temps, mais qui sont bien faites. Et aussi des chantiers où vous avez des gens avec des tâches très, très précises pour assurer en fait une construction de qualité à la fin. Alors, on sait que les travailleurs taillaient les blocs dans les carrières avoisinantes, les plaçaient sur des rampes de bois, lubrifiaient souvent avec on parle des huiles, mais surtout de la pâte de figue, en fait, peut-être de la boue, pour les faire rouler vers le site. Il y a plusieurs essais, en fait, d'archéologie expérimentale qui ont permis de voir que ça fonctionnait quand même très, très bien. Mais on se doute que c'est des milliers de travailleurs par jour, de partout en Égypte, qui vont donc nécessiter des logements, des dortoirs, des cuisines, des ateliers de rangement d'outils. Donc, sur le site, tout près, on a plus les logements, mais c'est sûr qu'il y en avait d'autres autour. En fait, au sud de la pyramide de Mykérinos, on a même trouvé les vestiges d'un village d'à peu près 4000 logements et même d'un atelier d'albâtre qui devait servir aux objets qu'on allait mettre dans sa pyramide à lui. Alors, pour la population de l'Égypte à l'époque, ça représente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sur les chantiers chaque jour. C'est sûr que quand on arrivait à la période des saisons et des semailles et des récoltes, il devait y avoir moins de monde à partir de ce moment-là parce que l'agriculture, on est encore dans une économie, on va dire de survie, reste terriblement importante. Mais on estime quand même que c'est à peu près 5% de la population des hommes adultes qui vont avoir travaillé sur les chantiers des trois pyramides. Et c'est un travail qu'on donne à son souverain. C'est un honneur, en fait, de travailler pour lui, pour continuer à le protéger, même dans l'au-delà. Mais donc, comme je vous disais, on a quand même un manque de documents. T'sais, on pouvait supposer une bureaucratie très, très importante pour gérer ces chantiers-là. Et l'hypothèse s'est consolidée en 2013, coup de théâtre. Lorsque l'égyptologue Pierre Tallet et son équipe ont découvert des fragments de papyrus vraiment fascinants. On les appelle le journal de Merer. C'est un journal de bord qui a été écrit vers 2560 avant notre ère et qui répertorie les activités quotidiennes des travailleurs qui ont participé au transport des blocs de calcaire vers la grande pyramide de Khéops. Alors voilà le document qui confirme qu'on a des travailleurs. Ce ne sont pas des extraterrestres qui ont construit les pyramides. Ce ne sont pas des esclaves non plus. En fait, le document, il est en fragments, il est quand même assez précis. Là. Il nous mentionne les mois de travail nécessaires pour le transport, juste des pierres, en fait, des carrières qu'on appelle Toura Nord, Toura Sud, jusqu'au plateau de Gizeh. Et ça nous confirme donc que ce sont des travailleurs qui taillent les pierres, les transportent et qu'ils sont payés pour leur travail en bière, en vêtements, etc. Ça, on le savait quand même déjà avant la découverte de ce papyrus-là. Mais donc, on est vraiment très loin de l'esclavage ici. Donc ça, c'est un document très important qui vient asseoir, en fait, là, un peu nos connaissances et vient confirmer nos hypothèses sur la bureaucratie aussi autour de la gestion d'un chantier comme la pyramide de Khéops. Et d'ailleurs, le journal mentionne le nom original de cette grande pyramide qui est Akhet Khufu, l'horizon de Khéops. Donc parfois, là, je sais qu'il y en a qui sont peut-être allés à Montréal le faire cette espèce de d'immersion 3D, bien c'est comme ça qu'on l'a nommé avec raison. Et donc après les pyramides du plateau de Gizeh, à partir de la 5e dynastie, sécheresse, problèmes économiques, peut-être un peu plus de résistance de la population aussi. Mais là, on s'en va vers des plus petites pyramides, toujours en pierre, mais on va mettre plus d'importance, par contre, sur les temples qui les accompagnent, qui sont dédiés au soleil. Et on va avoir ce nouveau tournant quand même important avec la pyramide d'Ounas, que sont les textes des pyramides, qui vont vraiment avoir une influence assez importante sur les tombeaux des époques subséquentes, Moyen Empire et Nouvel Empire, où on va vraiment parler des livres des morts. Donc, ce sont des formules magiques pour guider le pharaon vers l'au-delà. Ça guide le roi sur le pour son voyage vers le dieu soleil. C'est un style littéraire, des fois, surtout les plus anciens textes, un peu difficile, là, je dirais, à interpréter. Vous pourrez aller lire, en fait, des égyptologues qui ont travaillé là-dessus, qui disent que c'est pas si évident que ça, mais il y a quelque chose comme 800 incantations dans les textes des pyramides. Alors, ça nous amène en fait à la fin de l'Ancien Empire où on commence à réaliser que les prêtres, les nomarques, eux aussi vont commencer à se faire construire des tombeaux. Pas des pyramides, mais quand même des tombeaux dans la pierre. Alors, on s'en va vers une forme de démocratisation de cette idée qu'après la mort, il y a quelque chose d'autre, il y a la possibilité d'une vie éternelle et possiblement pas juste pour le pharaon. Alors, étant des gestionnaires qui vont prendre le pouvoir, c'est logique que les nomarques et les prêtres soient les premiers, en fait, à se dire qu'eux aussi vont y avoir droit. Mais on découvre de plus en plus, même à Saqqara, des tombeaux, en fait, de gestionnaires, de fonctionnaires et même de prêtresses de l'Ancien Empire qui ont eu ces honneurs-là. Donc, on voit, en fait, que graduellement, on passe de seulement le pharaon qui a le droit à ces espèces de machines, on va dire, à ressusciter. Et là, de plus en plus de gens qui en ont les moyens, du moins dans la société égyptienne, vont eux aussi avoir peut-être ce droit là, d'affronter le voyage dans le monde souterrain et peut-être aussi d'avoir accès à une vie éternelle. Pas divine, mais une vie éternelle quand même. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Et pour les nomarques qui vont oser se faire construire des tombeaux, bien, eux vont commencer à nous laisser même des extraits de biographie. Donc, on a le tombeau d'un notable, en fait, là, qui nous montre des chasses, des scènes de chasse, puis tout ça. Il s'appelle Medjen, il était sous Snefru, qui nous montre un petit peu des extraits, en fait, de sa vie à l'écrit et surtout du point de vue iconographique. Et donc, si on s'en va du côté des arts et de l'architecture, l'Ancien Empire se rend le monumental. Les pyramides, le sphinx, mais même les statues de pharaon, à l'exception de Khéops, pour laquelle on n'en a qu'une petite, c'est des grosses statues en pierre. Le but, c'est que ça dure dans le temps, c'est l'éternité qui est recherchée. Mais on va commencer à voir, en fait, vers la fin de l'Ancien Empire, en fait, que beaucoup de gens riches, de fonctionnaires, de gens qui ont travaillé pour l'État, vont eux aussi non seulement avoir des tombeaux, mais avoir le droit d'être représentés aussi dans la pierre avec leur famille. Et ce sont souvent, en fait, des sculptures qui sont peintes. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et ce qu'on voit à la fin de l'Ancien Empire aussi, c'est un nouveau thème qui va arriver dans l'art. Encore une fois, ce n'est pas juste le pharaon qui va être représenté, mais de plus en plus les actions du quotidien. Donc là, on va avoir, en fait, des représentations de gens qui vont brasser la bière, de gens qui vont travailler le bois, qui vont travailler la pierre. Donc, on commence déjà à essayer de montrer la vie quotidienne à la fin de l'Ancien Empire, mais ça, c'est quelque chose qui va devenir un thème très important dans l'art à l'époque subséquente qu'on verra plus tard, mais qui est le Moyen Empire. Donc, c'est ce qui nous mène à la première période intermédiaire, 2160-2055, donc à peu près un siècle, qui est vraiment notre crise du système monarchique, la première. Et là, on a une succession un petit peu chaotique de rois, qu'on a un peu de difficulté à suivre d'ailleurs. On voit la lutte pour le pouvoir entre les rois, les nobles même, les nomarques, les prêtres, et on remarque surtout le problème de désertification du Sahara qui va provoquer des sécheresses et beaucoup de problèmes environnementaux et économiques. On a d'ailleurs un texte du Moyen Empire, qu'on appelle les Lamentations d'Ipour ou Ipuer, qui nous parle un petit peu de à quel point on n'a plus confiance, en fait, envers le pharaon. Il a manqué, en fait, à son devoir, qui était de protéger la population du chaos. Et là, on commence à avoir des sécheresses, on commence à avoir des famines, alors c'est un peu l'équivalent. Alors, il nous dit « Voici que des événements se sont produits qui n'avaient jamais existé depuis la nuit des temps. Le roi a été renversé par la populace. Oui, celui qui avait été enterré en tant que faucon, on l'a arraché de son sarcophage. Le caveau de la pyramide a été violé. Voici qu'on en est arrivé à ce point qu'une poignée d'individus individus qui n'entendaient rien au gouvernement à dépouiller le pays de sa royauté. Alors, si vous vous demandiez pourquoi il n'y a plus rien dans les pyramides, c'est un pillage qui s'est fait à la fin même de l'Ancien Empire. C'était vraiment assez évident, là. La pyramide dit « ici est le trésor et le pharaon », et les gens ne voyaient plus en fait le côté sacré du pharaon et se sont permis donc d'aller piller les pyramides et même de retirer les corps des pharaons de leur sarcophage. Donc, c'est quand même assez particulier, là. Donc, c'est un viol des sépultures royales qu'on fait à l'époque. C'est quand même un sacrilège. On n'aurait pas vu ça, en fait, au début de l'Ancien Empire. Et donc, ça va nous amener plus tard à parler de comment on va retrouver le pouvoir, comment on va reconsolider le pouvoir pharaonique, redonner confiance envers les pharaons. Ce sera la période du Moyen Empire. Mais donc, pour l'instant, passons maintenant brièvement à l'île de Crète. On va aller en fait du côté de l'Égée pour rester dans notre période chronologique parce qu'il se passe quelque chose aussi de ce côté-là. Donc, pendant qu'on est dans les débuts de l'Ancien Empire, ça se développe aussi du côté du bassin égéen. Donc, quand on arrive vers 3000 avant notre ère, on voit en fait là, en Égée, des nouvelles techniques de métallurgie qui étaient connues depuis longtemps en Mésopotamie. Donc, ça s'est probablement fait par transmission des savoirs, par contact. On commence à voir des armes, des objets décoratifs et on commence à voir en fait qu'il y a des classes un peu plus aisées un petit peu partout en Égée. Donc autant là, du côté du Péloponnèse, l'Attique où se trouve Athènes, mais aussi les îles des Cyclades. Et on commence à voir aussi que la métallurgie va amener des nouveaux besoins. Donc là, on voit une évolution, on voit des changements sociétaux quand même assez importants parce qu'il y a peu de métaux en Grèce. Donc si on veut faire du bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain, je vous le rappelle, on a besoin d'importation. Donc là, va commencer à organiser le commerce, avoir des contacts, en fait, entre différentes régions pour pouvoir avoir les métaux dont on a besoin. On va avoir besoin de spécialistes aussi pour pouvoir travailler les métaux, donc faire les alliages d'une part, mais ensuite fabriquer les armes et éventuellement peut-être, bon, les cuirasses et tout ça. Mais bon, on n'a pas d'écriture, alors pour cette époque-là, on a peu de détails, en fait, à ce sujet-là. Alors, c'est très difficile de comparer qu'est-ce qui s'est passé avec la Mésopotamie et l'Égypte pour la même époque. On n'est pas du tout au même niveau d'évolution. Donc, quand on arrive en 3000 avant notre ère, en Mésopotamie, on est déjà, en fait, vers la fin de la civilisation d'Uruk. En Égypte, ben là, on entre vraiment dans l'ère pharaonique et on commence vraiment à s'en aller vers le système qu'on décrit depuis deux cours. Alors, on n'est pas du tout au même niveau d'évolution. Et comme on n'a pas d'écriture pour cette époque-là, c'est un peu difficile. Mais donc, ça nous amène à la civilisation crétoise minoenne parce que la Crète, elle va se développer peut-être plus que d'autres régions de l'Égée. Vers 2900-2800, avant notre ère, on a un début de peuplement en Crète et ça va aller quand même assez vite. L'Ouest est peut-être moins occupé parce que c'est très montagneux, mais le côté plus agricole de l'île de Crète, là, on va vraiment voir une augmentation assez rapide, en fait, de la population. Et c'est sûr que le sol est peut-être plus riche. Il y a des gisements de cuivre aussi dans ce secteur-là sur l'île de Crète et elle a une ouverture directe sur la Méditerranée pour le commerce. Alors, vers 2700 avant notre ère, donc ce qu'on pourrait appeler la fin du néolithique dans le monde égéen, on peut commencer à vraiment parler d'une période minoenne crétoise. Je reviendrai sur pourquoi on parle de plus en plus de civilisation crétoise dans un autre épisode et de moins en moins de civilisation minoenne. Minoenne, ça venait tout simplement en fait du mythe du roi Minos, le mythe du Minotaure, mais vous allez voir que les livres les plus récents délaissent de plus en plus cette appellation-là et s'en vont vers civilisation crétoise. On parle de la même chose en fait. Mais à partir de 2700, on voit un développement qui est beaucoup plus exceptionnel. On va commencer à avoir en fait des contacts d'ailleurs avec l'Égypte. On va commencer à travailler les métaux et on va commencer à avoir des villages en fait qui vont commencer à émerger. Donc en Crète, un petit peu comme l'Égypte, c'est pour ça que je les mets un peu ensemble, un à la suite de l'autre. Au fil du temps, on en est venu à faire trois grandes époques en fait de développement évolutif, on va dire, de l'île de Crète, un peu comme l'Égypte ancienne. Donc c'est assez facile à retenir. Vous avez le Minoïen ancien, on va parler d'à peu près 2800-2200 avant notre ère. Le Minoïen moyen, 2200-1600, et ce qu'on appelle le Minoïen récent, 1600-1450. Donc voilà pourquoi là, le Minoïen ancien faisait un bon lien, une belle transition avec l'Égypte, parce qu'il y a des contacts entre l'île de Crète et l'Égypte, en fait, pour cette période-là. On connaît mal la période parce que les débuts de l'écriture sur l'île de Crète, ben, on n'a pas pu déchiffrer encore les fameux pictogrammes, en fait, qu'ils vont utiliser pour cette époque-là. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de monde qui y habite et qu'il y a déjà des échanges commerciaux relations avec les Égyptiens et les Phéniciens. Alors ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et plus on va avancer dans le temps, donc quand l'Égypte, elle, va terminer l'Ancien Empire, ben, l'île de Crète va entrer, en fait, dans le Minoen moyen. Et là, on va voir un changement quand même assez spectaculaire. On va vraiment parler d'une société de type palatial, les fameux grands palais comme Knossos, si vous en avez déjà parlé. Alors, ça, on va en reparler plus en détail dans un prochain épisode. Et pour en savoir plus sur le sujet de ce cours, ben, comme toujours, je vous suggère deux lectures. Pour l'Égypte, la première, c'est « The Oxford History of Ancient Egypt » par Yann Shaw. Ça, c'est publié aux presses universitaires d'Oxford. Et honnêtement, c'est une bonne synthèse historique chronologique de l'Égypte ancienne. Donc là, si vous voulez les dates, les époques, qu'est-ce qui se passe essentiellement pour chaque époque, ça reste vraiment une très, très bonne synthèse. Pour la civilisation crétoise, par contre, je vous suggère le livre « Naissance de la Grèce » de Minos à Solon par Brigitte Le Guen, Maria Cecilia d'Hercole et Julien Zurbach, qui est paru aux éditions Bélin, donc celui-là est en français. Si vous voulez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, ben j'ai mes deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, et mon compte Historiophile. Je fais aussi des actualités avec mon compte personnel sur X, mais là, il migre graduellement vers un nouveau réseau social qui est Blue Sky, où c'est beaucoup plus facile, je peux vous le dire, de suivre mon fil d'actualité si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours!